Voilà, c'était Marlène Dietrich, Lily Marlène. Eh bien, nous, on va retrouver André Crémieux. On parle de son livre « La folle de Saint-Sauveur », donc qui est l'histoire de prisonniers allemands qui sont dans la région, qui ont été amenés là, puisqu'ils étaient, comme nous l'a dit André au début de cette émission, 740 000 en France, et qu'il y en avait dans chaque département, hein, André, à peu près.
Oui, c'est ça. Avec des différences, probablement, entre les départements ruraux, les grandes usines, dans le nord, où ça avait beaucoup plus dégradé, la guerre avait dégradé les biens publics,
Alors bon, on était resté un peu sur l'histoire des femmes. Alors c'est vrai que les femmes, alors on le disait à la fin de la guerre, celles qui avaient couché, il faut dire le mot comme il est, hein, de toute façon, avec des Allemands, on les a rasées. Alors pourquoi, ça, la question reste posée, moi je ne me lancerai pas là-dedans. Mais bon, on sait que l'être humain, on n'a pas été rasé les Allemands, alors je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a des Allemandes qui ont couché avec des Français.
Que des Allemands ont viré les Françaises. Eh ben oui.
Non, les Allemands qui ont couché. Oui, voilà, c'est ce que la réciproque.
Non, ce que tu viens de dire, bon, c'est. Tu dis comment ça se fait ou pourquoi. Il faut penser que c'était. Mais dans les jours qui ont suivi la libération. Tu vois, il y a des scènes dans le livre qui racontent cette traction où il y avait les levées de la victoire avec la croix de Lorraine. Bon. Mais les gens étaient. C'était une explosion de joie à la libération, donc de vengeance. On montrait du doigt les femmes qui avaient, et bien entendu, il s'agissait d'une justice rapide et populaire, tu vois. Et la maman, la mère de cette folle de Saint-Sauveur, ben, elle a connu ce sort. Moi, c'est ça, j'insisterai pas énormément là-dessus. Ce qui me semble absolument étonnant, c'est que 2 ou 3 ans après, on conseillait aux prisonniers allemands d'épouser les copines qui s'étaient fait à la ferme, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, quelle mémoire ont-ils laissé? Tu vois, là, on parlait tout à l'heure du terrain de sport de Craponne. Oui. Mais il faudrait retrouver des tas d'histoires. Et c'est ça, l'archéologie de la mémoire, c'est ça.
D'accord. Alors, il faut qu'on parle un peu de ta folle de Saint-Sauveur, quand même, parce que donc cette fille, elle, contre toutes les idées reçues, bon, on a bien compris qu'elle était tombée amoureuse de ce Gunther, hein, qui était peut-être un très joli garçon, en plus.
C'était indiscutablement, je t'arrête tout de suite, je l'ai connu, j'étais pas une jeune fille à l'époque, je ne le suis pas non plus encore. Mais c'est ça, si tu veux. Ça a été le contact avec des souvenirs d'enfance, les miens. J'avais 10 ans en 47, je le répète. Et puis, je voyais ce prisonnier qui m'a fabriqué des arcs, qui savait attraper les lézards, qui en rigolait comme des bossus. Il avait 22 ans, tu vois. Il était tout content d'avoir un copain français, quoi.
Alors bon, là je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, toi, t'avais aucune animosité, parce que t'avais 10 ans, on sait quand on est enfant, on fait pas cette différence des adultes. En plus, toi, tu savais pas tout ce qui s'était passé, je pense, à l'époque, on t'expliquait, c'est la guerre, bon, mais c'est la guerre, puis tu l'avais pas vécu, tu l'as vécu un petit peu de loin, hein. Mais bon, c'est ce contact tout de suite avec cet Allemand, qui pouvait peut-être paraître même un peu bizarre pour tes voisins, non?
Eh ben, je t'ai laissé dire, là, hein, parce que tu m'as coupé le souffle en me rappelant qui c'était ce gamin. Eh ben, ce gamin, sa grand-mère était venue le chercher à Lyon, pratiquement sous les bombes, tu vois. Mes parents habitaient à côté de la voie ferrée et ils allaient, bon, mon père allait la nuit, on se demande ce qu'il faisait, le pauvre, hein, contre les bombardements. Oui. Mais enfin, il avait mission d'aller surveiller le convoi. Bon. Et ce gamin, qui avait donc 10 ans, ben, il était enfant de la ville. C'était Oullins, hein, la banlieue de Lyon. Hein. Et ben, il voyait des mitraillettes sans arrêt, il voyait des soldats allemands sans arrêt, il entendait ses parents dire ils ont fait sauter le pont de la Mulatière, des trucs comme ça, quoi. Si c'est... Et il arrive chez ses cousins, à la campagne, il voit un prisonnier allemand, il comprend plus, il dit mais il n'a pas de mitraillette. Mais il n'a pas un uniforme vert, il ne crie pas dans la... Oui, il était complètement étonné, dont le bouleversement de ce gamin, qui a été séduit par la découverte de ce personnage.
Oui, puis, oui, parce que c'est vrai, enfin, moi, j'ai toute ma famille était à Lyon à cette époque, hein, ah, donc ouais. C'est pour ça que je connais bien. Hein. Moi, j'ai mon oncle qui montait, se ravitaillait en vélo hein, de bah, Lyon. Voilà. Oui, mais tu sais, oui, mais ça, c'est des époques que moi, j'ai pas vécues, mais j'ai toujours entendu dire.
Alors, tu es au cœur du problème. Quand tu dis, je l'ai pas connu, mais je le sais, ça veut dire que tu as eu un travail, ne serait-ce qu'inconscient ou sur la mémoire.
Oui, puis il fallait vraiment avoir faim pour monter en vélo, et parfois il redescendait avec pas grand chose, hein, donc c'était compliqué. Puis l'histoire de la voie ferrée, ouais, à Oulin, la Mulatière, tout ça, hein, il y avait le grand nœud ferroviaire à l'époque, et j'aimerais, toujours d'ailleurs.
J'aimerais qu'un historien soit là à nous écouter, parce que je me souviens parfaitement du pont métallique de qui avait basculé était à ras de la Saône, là. On passait sur des planches parce que le pont avait sauté. Mais qui l'a fait sauter? Les Alliés ou les Allemands? Je n'ai jamais... Enfin, il faudrait travailler encore là-dessus, sur la mémoire.
Oui, bah si c'est comme à Saint-Étienne où les Américains ont bombardé de haut et qui se sont trompés de quartier.
Et ça se produit aussi.
Ouais, au lieu de bombarder Château-Creux, ils ont bombardé un quartier où il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, moi j'ai là les membres de la famille de ma femme qui ont été tués à cette occasion. Donc voilà, c'était à l'époque, hein, il y a eu sûrement des erreurs de tir, hein, comme on peut dire.
Oui, alors, oui,
toi,
oui,
c'est vrai que tu te retrouvais à la campagne, c'est vrai que ça t'a changé complètement la vie quand même, hein.
Ben, à 10 ans, oui, je suis resté entre 9 ans et 11 ans, hein, pendant qu'il y avait ces gens-là, quoi. Et je me souviens de toutes les scènes du café, parce que j'étais parce que j'étais avec mon cousin, parce que, tu vois, et les Allemands étaient, alors je se répète, mais c'est ça quand même le problème, d'un côté détestés, de l'autre côté...
Oui, puis il y a 11 ans de la mémoire encore.
Oh ben,
on se rappelle tout. Non, mais je veux dire, on a 5-6 ans, on arrive à se rappeler, mais 10-11 ans, quand même, on se rappelle un peu tout ce qui s'est passé. Hein. Alors donc, et dans ce village, alors bon, on ne va pas donner la fin du livre, hein, parce que
non,
sinon,
il ne faut pas.
Mais on comprend bien qu'entre Gunther et, tu me l'as appelé comment, ta folle de Saint-Sauveur, elle a un prénom quand même?
Pourquoi quand même?
Ben non, ben je sais pas, tu dis la folle de Saint-Sauveur.
Non, je rigole Jean-Pierre, parce que longtemps, et on m'a, pendant que je faisais le bouquin, on m'a reproché, ou on m'a dit, mais comment elle s'appelle? Et je disais, quoi, ben, je sais pas, elle est tellement bizarre, ouais. Elle arrive tellement dans ce climat de haine contre les Boches, elle arrive aux yeux de ce Gunther, elle apparaît en haut d'un rocher, elle est folle de comportement, mais elle est bizarrement habillée, tu vois, et puis elle est toujours accompagnée de deux chèvres, et les deux chèvres jouent un rôle dans ce roman, tu vois, parce qu'elle est comme ça.
Elle est à contre-courant, elle, un peu.
Ah ben oui, alors là complètement.
Ouais, complètement.
Elle est à contre-courant. Ah oui, oui. Elle n'est pas raisonnable. Tout le monde lui dit qu'elle n'est pas raisonnable.
Voilà, c'est ça. Oui, comment elle est ressentie dans le village? Voilà, pas bien, je pense.
Écoute, hein. Si je tombais du premier coup, tu es en train de me demander toutes les pages.
Ah bon, non. Alors,
tu as raison.
On n'en parle pas.
Elle arrive.
Non, c'est toi, il ne faut pas aller jusqu'au bout du livre.
Elle arrive au café, elle fait l'embrouille parce qu'elle est complètement dingue, là, et tout. Et les gens lui disent, fous-nous la paix, va retrouver tes chèvres.
Oui. Tu sais,
c'est.
Oui, d'accord.
Elle est insupportable, ouais. Mais elle est adorable par un certain Gunther.
Oui, elle est jeune. D'abord, très jeune, donc c'est pour ça, c'est la folie de la jeunesse un peu.
Mais je ne sais pas.
Hein, tu sais pas.
La passion.
La passion aussi,
ouais.
Oui, mais ça joue, hein, ça joue.
Ben oui.
Puis peut-être que tous les jeunes allaient connaître son village, mais ce Gunther qui arrive de nulle part. Ouais. Ben on est toujours attiré un peu par la personne étrangère,
oui,
surtout si, comme
ça.
Tu me dis, toi, c'est un très beau garçon,
tout à fait.
Donc elle tombe sous le charme.
Alors là, tu l'as dit, les jeunes sous le charme. À tel point que les gars du village, qui voient qu'elle a succombé à Gunther, et ben ils veulent lui casser la gueule à Gunther. Ben forcément, on ne touche pas aux filles du pays, c'est dans le livre.
Oui, mais ça, il n'y avait pas besoin de... Je pense qu'il soit allemand, hein. Ça soit ailleurs, même dans nos campagnes, des fois, quand il y a un gars qui arrivait, si il allait fricoter un petit peu les filles du coin, ça se passait pas très bien avec les copains.
Et parallèlement, les filles, quand elles voyaient arriver des nouveaux, elles disaient, ils sont un peu plus marrants que les autres. Ouais. Écoute, on rigole. Ça, c'est bien.
Non, mais c'est bien. Il faut de toute façon.
Ah, donc, écoute, c'est
aujourd'hui, on parle du livre d'André Crémieux, La Folle de Saint-Sauveur. C'est surtout où t'as insisté, toi, c'est sur ces prisonniers qui ont été chez nous, qui ont travaillé dans les fermes. Bah, chez nous, c'était dans les fermes parce qu'il n'y a pas d'industrie, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, qui étaient vus différemment d'un côté, soit ils étaient bien vus chez leur employeur, dans la ferme où ils étaient, soit ils étaient complètement, peut-être pas maltraités, hein, peut-être pas maltraités, on ne va pas aller jusque-là, mais c'était peut-être limite parfois. Hein.
Si, limite, oui. La Convention de Genève était formelle là-dessus, sur ce sujet. Il y avait eu trop de drames à la guerre, hein, qu'il fallait respecter la personne humaine, et donc on a édicté des tas de circulaires sur la gestion de ces camps dont je te parlais tout à l'heure. Les meilleurs, je dis les meilleurs, les plus efficaces ouvriers agricoles allemands avaient un salaire. Il était convenu, il était obligatoire de payer les... D'où, à la fin, à leur libération officielle, on leur proposait, la France proposait aux prisonniers, d'établir des contrats de travail avec leurs employeurs. Je sais que ça s'est fait dans les fermes, ça s'est peut-être fait ailleurs. D'accord. Je voulais qu'on vienne sur la mémoire, parce que tu me disais tout à l'heure, mais très rapidement.
Non mais vas-y, on a le temps.
Insister sur le fait que, c'est ça qui est intéressant, d'essayer de retrouver les traces, non pas des sentiments directs vis-à-vis des prisonniers, mais quelles traces ont laissé ces sentiments dans notre... Nous, chez nous, quoi. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, et moi j'ai eu la chance, mais c'était la limite. c'est pas compliqué. Ils ont été libérés en 47, début 48, on est bien d'accord. Les témoins de l'époque, les prisonniers allemands, auraient maintenant 95 à 100 ans.
Bah oui.
Tu vois. Donc je suis un peu étonné de voir dans le commentaire d'un film qui vient de passer à la télévision, là, ce documentaire parvient à faire la partie belle aux témoignages d'anciens détenus. J'aimerais bien rencontrer un ancien détenu, tu vois, qui a travaillé dans une ferme, et qu'on puisse lui demander qu'est-ce que vous pensez de votre patron quand il était... je sais pas quoi. Non, ça, je pense que là, on est sur la mémoire des gens qui ont donné leurs sentiments.
Voilà, oui, c'est comme nous, on a entendu dire, voilà, qu'il y avait des prisonniers, c'est ça, on a entendu que...
Eh bien, dans tous les sens, il y a eu des histoires, mais absolument incroyables, tu vois.
Ouais.
Il y a... On peut continuer, là, on bavarde parce que...
Oui, vas-y, André.
On m'a raconté l'histoire d'un prisonnier allemand qui travaillait dans un garage. Si ton père avait eu un... Hein. Et le garagiste lui disait, il faudrait qu'on fasse ça. Il me prenait très mal, il se tapait dessus, là, et il disait, moi, SS, moi, non, moi, pas travailler. Tu vois? Bon. Pire encore, il y en a d'autres qui ont appelé les gendarmes en leur disant, si ça continue, on va se prendre la gueule et il va foutre le feu à la maison. Et d'autres, au contraire, dont j'ai obtenu le souvenir d'absolument très sympa. Quoi. Bon, on sait très bien que bien après leur libération, certains sont revenus voir leurs employeurs. C'est pas vrai?
Ah si, tout à fait.
Hein?
Et il y en a qui reviennent toujours.
Encore maintenant, leurs enfants.
Ouais,
c'est magnifique.
Ouais,
ça. Ouais. Il y en a un qui me racontait que son père donc avait vu revenir son prisonnier en Mercedes. Mais tu as un truc absolument incroyable. J'ai dit, monsieur, il a vachement réussi, mieux que chez moi, quand il faisait la ferme. Pas du tout, c'était un directeur d'usine, un truc comme ça, qui était libéré en Allemagne, enfin qui était retourné chez lui.
Oui, mais ce que tu dis là, justement, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est que... Bon, il y en a qui étaient, les SS. Alors, quand on parle des SS, c'est ce qu'on disait, les SS et les Allemands, il fallait faire une différence. À l'époque, on ne le faisait peut-être pas, mais en sachant tout ce qu'on sait, on le fait un peu plus, hein, parce qu'il y en a qui seraient bien restés chez eux plutôt que de venir faire la guerre, ou inversement, hein, des Français. Et on disait, alors, Bon, l'ISS, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était, toi tu parlais, tu as eu des enfants très jeunes. Quand tu as des enfants très jeunes, que tu les enrôles, si tu leur dis qu'il faut te tuer, c'est bien, à force de leur dire, ils vont trouver que c'est bien. Et je pense que ce prisonnier dont tu parles, SS, il avait gardé ça dans sa tête, lui. C'était inadmissible pour lui de pouvoir collaborer avec des ennemis, quoi. Enfin, moi, c'est un peu l'idée que j'ai, quoi.
Mais je crois que tu as raison, mais tu es en plein dans le problème, là. Mais j'espère que c'est pas un problème, parce que si on dit que c'est un problème, eh ben les gens qui nous écoutent vont dire « Les problèmes, on en a tous les jours comme ça ». Non, c'est un roman. Hein. Oui. On soit bien d'accord, c'est un roman. Mais si on continue sur cette voie que tu soulèves, là, sur les rivalités, les haines, ou les amours, on m'a rapporté également, j'ai récupéré une histoire d'un père qui, dans sa ferme, avait un prisonnier, et il écrivait à ses fils, qui eux aussi étaient prisonniers, mais en Allemagne, tu comprends bien, il dit, ben, j'ai un boche là, qui travaille pour moi, ben, c'est pas le mauvais bougre, hein, il est bien. Les fils lui avaient répondu, écoute bien le père, si quand on est libéré, tu l'as pas jeté, on lui fait la peau, tu vois. Ouais. Donc là, il y a tout ça, quoi. C'est ça la mémoire de ces machins qui traînaient dans les comportements, les mentalités. C'était dur, hein, pour les gens, les braves femmes, les braves types, là, ou bien qu'ils avaient fait la guerre, ou bien qu'ils avaient fait la résistance, ou bien qu'il y avait eu des gens de chez eux morts, tu vois. Et quand ils voyaient les boches dans la rue, avec la boche sur l'épaule, et les Français qui leur tapaient sur le dos, ils disaient, mon copain, on va travailler.
Ouais, il y avait cette animosité qui était dure à partir, surtout à l'époque. Hein, surtout à l'époque.
Et ben, on est encore une fois dans ces années-là.
Ouais, où on vient juste de terminer, puis on ne sait pas tout, quoi, à l'époque. Hein. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas. Alors bon, on imagine, je pense
que. Le sujet est à la mode, hein.
Le sujet, oui.
Le sujet est à la mode.
Maintenant, oui. Mais en 46-47, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas trop tout ce qui s'était passé, d'ailleurs.
Hein. Oui, oui, ouais, oui, tu as raison. Ouais. Tu as raison. Oui, ouais. Oui. Tu vois, j'ai quand même, pendant que je bossais sur le sujet, là, ouais. J'ai rencontré, non pas le personnellement, mais les travaux d'un historien, d'un prof de fac, qui a focalisé son œuvre sur ce sujet. La mémoire, d'ailleurs, tu vois, un aspect méconnu de l'après-guerre. Quand les Allemands reconstruisaient la France, ça a été un documentaire récent à la télé, là. Donc le sujet ressurgit. Mais c'est pas du tout, je ne suis pas prof d'histoire, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la mémoire individuelle des gens, tu vois. Qu'est-ce qui traîne chez nous, quoi.
Oui, parce que je pense que dans les familles qui ont reçu des prisonniers allemands, bah, ça a suivi de génération en génération, on en parle, parce qu'il y a toujours le grand-père qui en a parlé, l'arrière-grand-père qui en a parlé au grand-père, le grand-père qui en a parlé au père, le père qui en a parlé au fils, et puis ça continue.
C'est ça la mémoire.
C'est la mémoire africaine, la mémoire orale. Hein.
Orale, oui, ouais, parce que, ouais. Mais à travers ces histoires de mémoire, eh ben, tu t'aperçois qu'il y en avait un qui a envoyé des cigarettes ou des cigares, ouais. ou un autre qui s'était carapaté, quoi. Ils essayaient bien. Quand ils voyaient en plein champ, ils disaient, bon, ben,
je pars, je
taille. Mais les gendarmes étaient là. Alors, on ne va pas parler des gendarmes, c'est pas la peine. On
ne
peut pas parler de tout.
Non, on ne peut pas tout parler. Donc, on parle surtout de ton roman La Folle de Saint-Sauveur. Alors, bien sûr, il est très récent, hein, puisque vient de sortir, il vient d'être édité.
Oui. Et... Alors, c'est les éditions du Maupassant.
Oui.
Joli nom.
Joli nom.
Petite astuce. Un petit clin d'œil à la littérature.
Oui.
Les éditions du Maupassant qui sont basées à Villeurbanne.
Hein,
on parlait de la région lyonnaise tout à l'heure. C'est une éditrice extrêmement dynamique, extrêmement tonique. Et il y a à la fin de l'ouvrage, il y a tous les livres qu'elle a. Regarde-moi toutes ces colonnes.
Oui, qu'elle a produit.
Ah oui, qu'elle a produit. Voilà.
Eh bien, écoute, donc La Folle de Saint-Sauveur, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Pas grand-chose, hein? André Crémieux, ça.
Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur, mon Saint-Sauveur, ça y est. Saint-Sauveur.
C'est joli, Saint-Sauveur.
Oui, c'est joli. Oui, Saint-Sauveur. Il y en a beaucoup des Saint-Sauveurs.
Oui.
Ouais, ouais. Non, mais je parlais parce que quelqu'un m'a parlé de Sauvin l'autre fois. Donc, on se mélange.
Jean-Pierre, tu as tant de choses à faire et tant de choses à dire que.
Alors, attends, on va pas se quitter comme ça quand même. Je veux dire, tu vas faire quelques dédicaces là.
Écoute, comme tu le disais tout à l'heure, il vient de sortir.
Ouais.
Et je pense que je vais avoir des amis qui là, bien sûr au puits, mais surtout là, il faut pas, bien que je l'avoue, c'est un roman qui se passe en Haute-Provence, tu vois.
Et oui, mais ça n'a pas d'importance.
Ah ben, des Saint-Sauveur, comme tu veux.
Oui, ça
et des filles.
Oui.
Et des beaux Allemands, il y en a eu partout. Oui, donc je vais un peu, comme on le disait, j'ai double nationalité, je vais aller d'un côté et de l'autre. J'ai beaucoup d'amis là-bas et qui m'ont raconté ces histoires.
Oui, à Livre Évasion, tu ne l'avais pas encore.
À Livre Évasion. Ah oui,
au début avril.
Oui, bien sûr.
Mais tu ne l'avais pas encore.
Je
ne
l'avais pas encore, non. Et là, c'était de ma faute.
J'étais
bourré dans les dates.
D'accord, ouais, mais c'était pas bien grave. Donc, il vient de sortir et c'est bien là l'essentiel. On va le trouver, comme on dit chaque fois, dans toutes les bonnes librairies.
Hein. Voilà. Ouais.
Alors, c'est la même question que je pose à tous les gens qui viennent, qui écrivent des bouquins. Est-ce que tu en as un autre déjà dans ta tête?
Alors, écoute, là, c'est vrai que tu penses ça à tout le monde?
À tout le monde.
Ben, dis-moi comment ils te répondent.
Ah ben je sais qu'il y en a déjà, ils en ont même écrit deux, déjà ils en ont un ou deux, mais il y en a qui en ont point.
Après celui qui vient
de présenter, il y en a qui me dit ouais ça y est, j'en ai un autre qui est fini ou j'en ai un autre que je suis en train de faire.
Ah ouais, eh ben écoute, moi il faut croire que je suis pas un grand écrivain, d'ailleurs j'en ai pas.
Mais non, mais il y en a d'autres qui ont rien. Hein.
Je pense que les grands noms de la littérature contemporaine, tu vois, sont des gens qui savent très bien qu'ils vont faire un bouquin l'année prochaine, ils ont ciblé leur truc, bon, parce que... Il y en a un auteur célèbre, enfin, un auteur qui est classe, quoi, qui m'a dit, mais je suis très content, depuis que je vous ai vu, là, j'ai écrit 500 lignes, j'en ai encore 2000... J'étais scié, je dis, mais comment il est sûr de lui comme ça, comment il fait, quoi. Il a des éditeurs derrière lui qui doivent le pousser et tout. Non, alors là, moi, je te réponds, Jean-Pierre, je n'en sais rien.
Très bien.
Je n'en sais rien. Je...
Non, non, mais
longtemps,
c'est...
hein.
Oui.
Trois ans, hein.
Oui.
Alors,
oui, non, mais il y en a qui attendent beaucoup, hein.
Bon, ben alors ça va.
Ben on se retrouve.
De toute façon, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps à perdre.
Oh, mais tu es en pleine forme.
Tu es
en pleine forme physique. Écoute, merci d'avoir été avec nous, André. Donc, je rappelle La Folle de Saint-Sauveur. C'est André Crémieux qui a donc édité par les éditions Maupassant de Lyon, de Villeurbanne exactement. Bien, merci d'avoir été avec nous et puis on souhaite longue vie à ton roman. Puis on t'attend donc pour le prochain, peut-être pas dans 7-8 ans parce qu'on va être un peu vieux tous les deux, hein, non?
Toi, moi et moi. Ouais. Merci Jean-Pierre, merci à Radio Craponne.
Salut.